des murmures dans les oreilles, des invités en tout genre.
Radio Pratique,
c'est l'heure de Radio Pratique.
Des créations sonores, des philosophes, des artistes.
Écoutez le vent.
Attention, ça va être à vous.
Je vais dire tu.
Sentir le vent.
Des poétesses de la scène.
Des circassiennes, des techniciens.
Saison 2021.
Tous qui discutent autour d'une table.
Écoutez le vent passer sous la peau.
Pourquoi est-ce qu'on s'échine à travailler la matière? Parce que l'âme, elle a besoin de s'incorporer quelque part.
Radio.
Pratique.
Considérer ses pensées comme des nuages.
En direct et en public.
Depuis le foyer du TJP Grande Seine.
Voilà. Bienvenue.
Bonsoir et bienvenue, oui, pour le premier plateau radio de la saison, qui se joue ce soir en jauge limitée, masquée, séparée autour de la table par des plaques de plexiglas et retransmis dans le hall pour les spectateurs et les spectatrices qui n'ont pu rentrer. L'équipe technique du théâtre a plus d'un tour dans son sac pour garder cet espace vivant et habitable, alors merci à eux. Voilà Yvan qui vient s'installer au plateau. La rencontre a donc bel et bien lieu, il est 20h59 et nous sommes heureux d'accueillir l'équipe de la compagnie Le 7 au soir. À la table, il y a donc Elsa Ourcade, metteuse en scène, et Yvan Corbineau, acteur, auteur et pas metteur en scène. Acteur, auteur, tu as le droit d'enlever ton masque puisque tu es entre deux plexiglas. Et puis le reste de la bande va nous rejoindre au fur et à mesure. Donc la foutue bande De Loin la Palestine vient tout juste d'être créée puisque...
De Loin de la Palestine.
Ah bah j'ai mal écrit. De Loin de la Palestine vient tout juste d'être créée puisque vous avez été en résidence au TJP ces deux dernières semaines et que la toute première a eu lieu hier. C'est donc aussi la première rencontre avec le public. Et public qui va pouvoir poser des questions. Peut-être que vous en aurez aussi à leur poser et qu'on pourra échanger de cette façon-là. En attendant que les sensations et les questions se formulent dans les esprits, je peux dire quelques mots d'introduction sur la compagnie, Le 7 au soir. Alors, c'est un collectif d'artistes dans lequel chacun peut déborder de sa fonction première, si j'ai bien compris, et participe activement à la construction du spectacle, bidouille, fabrique, cherche et compose à partir de l'écriture d'Yvan et sous la direction d'Elsa, qui signe la mise en scène du spectacle. On a pu voir ici Mamie Rôti et Quelle Tête, dont je ne saurais dire le sous-titre. Yvan, tu peux m'aider?
L'amour, la mer.
Voilà, merci. C'est du théâtre d'objets, c'est-à-dire qu'il y a de la manipulation, du détournement, et puis là aussi, particulièrement, beaucoup de choses qui se font à vue. Et dans La foutue bande, on trouve une écriture fragmentaire, poétique, des bandes en tout genre, de la musique, de l'arabe, des magnétophones, des ordinateurs, des repères historiques, de la fiction, de la vidéo, quatre parties, des chansons, des blagues, une devinette et un gros travail aussi sur le son et les différentes sources de diffusion. Et ça, je pense qu'on en reparlera. Alors, bienvenue Yvan, bienvenue Elsa, bonsoir.
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 À travers les vitres, il y a beaucoup de reflets, donc je ne suis pas sûre de voir tout le monde, mais est-ce qu'il y a déjà une question qui arrive de la salle?
J'aurais envie de commencer sur la... Alors, je dois dire, je ne sais pas, les différentes tonalités que vous avez dans vos dictions, en particulier la diction de... J'ai oublié le nom de... d'Yvan. Ce choix de diction par rapport à une situation, la situation de la bande, qu'est-ce qui justifie ce choix?
Ok, alors je vais me lancer dans la réponse à cette première question. Alors, il n'y a pas de choix. Les comédiens, ils sont assez libres de la manière dont ils s'emparent des textes. Par contre, on se met d'accord sur le sens de ce qui doit être dit. On travaille sur une parole qui doit être transmise assez simplement, le plus directement possible. Ensuite, il y a des différences entre eux, parce qu'ils ont des sensibilités différentes. Yvan, par exemple, c'est lui qui a écrit le texte. Donc souvent, il a une manière de dire son texte qui lui appartient, qui lui est propre. quand vraiment moi j'ai un problème, soit parce que je comprends pas ce qui est dit, soit parce que je trouve qu'ils en font trop, parfois dans le phrasé, dans la poétique, j'ai plutôt tendance à leur dire non, non, un peu moins, plus direct, plus droit. Nous on dit tout droit, dire les choses plus droites, pour qu'elles soient reçues directement. Mais voilà, pour le reste ils sont libres.
Je répondrai à rien parce que je n'ai pas cette conscience-là, moi, de différence. Hein. Moi, je dis le texte que j'ai écrit avec l'endroit d'où je l'ai écrit. Donc, la diction n'est pas une question que je me pose, en fait. En fait, c'est l'intention, ce n'est pas la diction.
Oui, moi, j'ai été assez frappée, bouleversée un petit peu par votre spectacle. Aussi bien sur la richesse de l'expression, de toutes les façons. J'ai encore un peu de mal de pouvoir sortir tout ça. Et aussi par la recherche énorme que vous avez faite sur ce thème et sur Gaza et la Palestine. Et je voulais demander, bon, parce que effectivement, moi, je m'occupe d'un collectif pour la Palestine, et donc je voulais savoir comment vous avez fait pour réunir toute cette richesse et cette parce qu'il y a énormément de faits, non seulement historiques, mais aussi culturels, mais aussi de situations, c'est un travail absolument énorme que vous avez dû faire pour pouvoir rassembler tout ça, qui même j'aimerais bien qu'on puisse le décortiquer davantage, qu'on puisse le développer et l'exprimer encore plus.
Il y a plusieurs choses. La première, c'est que c'est 11 ans, bien presque 11 ans et demi d'écriture. J'ai commencé à écrire sur la foutue bande en 2009 pendant l'opération Plomb Durci à Gaza. Donc ça m'a laissé le temps de creuser un petit peu le sujet. Il y a beaucoup de... Je vous dis que c'est foisonnant, mais il y a beaucoup de choses... Que vous ne lirez pas, vous n'entendrez pas, quoi, parce que j'ai beaucoup nettoyé. Entre le livre qui sera publié dans quelques mois et le spectacle aussi, il y a une sélection de textes, parce que sinon ça durerait trop longtemps par rapport à nous, nos capacités à faire un spectacle d'une heure et demie. Et ensuite, il y a... Donc ça, c'est une question de texte, mais ensuite, il y a la question du collectif et ce que le collectif ramène en plus. Dans le processus même de création, de résidence qui a duré 2 ans, je me suis laissé bouger par le collectif. C'est-à-dire que j'avais beaucoup de matière, mais quand on a commencé à répéter, quand on s'est retrouvé avec le collectif, il s'est trouvé qu'il fallait qu'on fasse le même chemin ensemble. Même si on n'avait pas le même temps, même si le chemin ne serait pas le même, il fallait qu'on fasse un chemin. Donc il fallait que chaque membre du collectif... accepte qu'on fasse ce chemin-là. Donc, ce que m'ont demandé les copines et les copains, c'est par exemple pour celles et ceux qui avaient un peu plus de mal à s'emparer de cette matière-là, ils me disaient pour moi l'élément le plus concret, le rapport le plus concret avec la Palestine, c'est Ousloub, donc qui était avec nous, qui est palestinien. Et il y a eu cette demande-là du collectif de dire, nous, on aimerait bien qu'il y ait une partie sur Ousloub. Donc, on a décidé avec Zoé et Elsa de faire un entretien avec Ousloub, qu'on a organisé un petit peu. Moi, j'ai écrit des textes par rapport à ça, par rapport à la notion d'être-territoire, qui était une notion que j'avais déjà pas mal creusée. J'avais un texte qui existait déjà, en fait, là-dessus, qu'on n'a pas là, qu'on n'a pas gardé. Mais donc, j'ai écrit les poèmes qui sont dits par des Palestiniens en vidéo. Donc, il y a ça. Ensuite, Elsa a repris le flambeau et elle a demandé à Ousloub d'écrire des petits, toutes les introductions sur les morceaux au début quand il parle des morceaux. Donc Elsa a rajouté encore ça. Ensuite, donc ça c'est le chemin, on va dire, le chemin d'écriture qui nous a amené à avoir une partition finale, quoi. Même si elle n'est pas arrivée il y a très longtemps. Et puis il y a aussi le moment de mise en scène. Et là, chacun. Faisant son chemin, je vais parler principalement d'Elsa et moi, parce qu'on est quand même tous les deux énormément en dialogue pour la création sur le texte et du coup la mise en scène. Et là, Elsa a ses marottes et donc les histoires d'archives, d'enregistrement, etc. Et c'est elle qui a fait tout ce travail de ramener toutes les archives et de choisir quelles archives, comment on allait construire notre rapport à la bande magnétique, au son, etc. et comment ça allait. Voilà.
Oui, on a tous des chemins différents. Je vais dire le mien vite fait, mais ça m'intéresserait que Judith Morisseau, qui est comédienne aussi, raconte son chemin. Forcément, Yvan, il avait 10 ans d'avance sur nous. Donc, quand on est arrivé, on était plus loin. Il a fallu faire le chemin. Yvan, il est quand même arrivé avec une matière filmographique, cinématographique, littéraire, très très importante. Il nous a donné énormément à lire et à réfléchir. Mais voilà, après, oui, effectivement, j'ai fait le choix du son. Je trouvais que c'était un fil narratif parfait. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a rajouté ces histoires avec Ousloub, qui parle de la musique, etc., qui raconte son histoire à travers son histoire musicale, parce que ça nous permettait de garder notre fil sur le son jusqu'au bout. Bah, moi, je peux te dire maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'ai eu une conversation avec Ousloub il n'y a pas longtemps là-dessus. Ouais, ce projet, il m'a changé. Voilà. Il m'a bougé, il me fait regarder le monde différemment. Et puis là, passer ces 3 semaines ici, alors qu'on sent que ça gronde un peu autour, que les gens vivent des situations compliquées ici, là-bas, partout, voilà. Ça m'a fait du bien de faire ça, voilà, de parler de ça. Et de, ouais, d'y croire un peu.
On accueille aussi Judith Morisseau qui est comédienne et plus dans la Footy Band.
Oula, j'ai le chat dans la gorge. c'est sûr que ça a été tout un chemin. Moi, j'ai un souvenir hyper fort du moment où on s'est réunis en Bretagne, tous ensemble, à peu près tous ensemble, et où on a évoqué qu'est-ce qu'on pouvait faire de toute cette matière-là, du livre là où il en était à l'époque et qui a dû beaucoup changer, mais qui était déjà très très multiple et qui pouvait se déplier avec toutes sortes de, je sais pas comment dire, une structure déjà en elle-même assez étrange, éclectique, qui partait dans plein de directions avec plein de sortes de modules possibles. Enfin, c'est comme ça que je l'ai reçu. Je l'exprime, je pense pas très bien, mais c'est comme ça que je l'ai reçu. Et qu'on se disait qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça. Et puis, on se demandait si on se donnait la liberté de faire un spectacle de 6 heures, de 8 heures, de 12 heures, s'il y avait besoin, si on voulait. Enfin, on avait évoqué ça. Assez vite, on est quand même arrivé à l'idée qu'on allait plutôt rester sur 1h30. Mais le fait d'avoir... j'ai un peu la sensation qu'il y a cet iceberg, je ne sais plus comment dire, en commun quand même. C'est-à-dire qu'il y a aussi tout ce qu'on n'a pas fait, dont on a quand même travaillé des bribes et tout, et qui a alimenté le condensé qu'on a aujourd'hui. Après... politiquement, c'était tout un cheminement aussi. Moi, mon rapport à la Palestine, par exemple, était assez succinct. À la base, j'étais vraiment plutôt complètement d'accord, mais j'avais pas fouillé, enfin, d'accord sur la position très claire politique, mais j'avais pas fouillé ça. Donc, ça m'a permis aussi De me pencher le plus possible sur la question dans la mesure du temps que j'avais et tout. Alors il y avait une énorme bibliographie, c'était assez génial, de films, de livres et tout. Et puis j'ai pioché un peu au petit bonheur la chance de moi là où... Voilà, et je pense qu'on a fait chacun nos chemins de traverse comme ça pour rejoindre effectivement un point commun avec Yvan. Que évidemment on n'a pas tout l'arrière, quoi.
Avec Yvan et Sloub aussi, parce que la présence de Sloub était très importante pour nous, parce que lui, il est né dedans, quoi. Mais le chemin qui est à faire, je crois aussi, c'est le chemin en tout cas que moi j'ai fait, mais en discutant avec les membres du collectif, je me rends compte que c'est le cas aussi, c'est le chemin de comment on nettoie tout ce qui nous est rabâché toute la journée sur ce conflit. Parce qu'on parle de conflit, mais qui dit conflit dit... deux entités qui s'affrontent. Et là, en fait, c'est pas ça. Elles s'affrontent, mais en fait, c'est une situation coloniale. Donc on a un peuple qui est viré de chez lui, ou à moitié viré de chez lui, et un autre peuple qui vient s'installer. Donc en fait, on a beaucoup de mal à entendre ça en France, parce que les radios, les médias, tout ça, nous disent pas ça. Tout le monde parle tout le temps de conflit, et on essaie de mettre à égalité les deux entités. Et donc, cette chose-là, comme on nous la rabâche toute la journée, en fait... C'est très difficile de s'en séparer, en fait. Donc, ce chemin-là, il a été très compliqué à faire. Enfin, non, peut-être pas très compliqué, mais ça prend du temps. Moi, j'ai pris du temps aussi à comprendre ces choses-là, plus plein de petites subtilités qui ne sont pas toujours petites, d'ailleurs, qui ne sont pas toujours très subtiles non plus. Mais voilà, il y a du chemin à parcourir, quoi, hein, là-dessus, quand on s'y penche, on va dire. Et c'est super parce que... Parce que j'ai l'impression que dans le collectif aujourd'hui, on ne se pose plus tellement ces questions-là. Et c'est reposant.
Je n'ai pas pu m'empêcher effectivement de rapprocher votre... peut-être pas la mise en scène, mais il y a une tonalité qui me rappelle beaucoup Elias Suleiman dans son approche... que je dirais humoristique et distancié, avec la grille, bien sûr, de la lecture coloniale, qui bien sûr est évidente, mais comment, au fond, dans tout cela, le tragique, qu'est-ce qui reste du tragique et de la violence? Qu'est-ce qu'il en reste? Ou est-ce que c'est un choix volontaire? On va mettre de côté cet aspect-là pour s'attacher à une autre dimension, comme Elias Suleiman le fait.
Alors, je dirais, là, pour le coup, c'est une question de point de vue. Parce que moi, le tragique, encore aujourd'hui, quand j'entends certains textes du spectacle, quand j'entends certaines archives, ça me fait encore cet effet-là. Par exemple, moi, ce soir, quand le cabaret il s'est arrêté et que il y a cette musique qu'envoie Osloup, que je trouve très très belle, et qu'Yvan il dit cette liste du nombre de Palestiniens qui vit dans le monde entier, il y a quelque chose de l'ordre du tragique qui me rattrape, même si c'est quelques secondes. Moi je pense que, en tout cas, on a travaillé à donner tous les ingrédients, mais on voulait aussi. On voulait aussi que les gens ils puissent rentrer dans le spectacle et nous accompagner avec avec toutes les couleurs, toutes les tonalités. Mais ça, c'est pas vrai seulement pour la Palestine, c'est vrai pour plein de trucs, pour plein de questions qu'on se pose ou pour plein de spectacles ou de films qu'on a envie de voir. Au fond, l'idéal, ce serait de se dire, est-ce qu'on est capable de rire, pleurer, se perdre un peu, s'endormir moitié, revenir, repartir, tout ça. Moi, j'espère que ce spectacle, il propose ça. Y compris même des moments où on agace, peut-être, on gratte, on frotte, ça agace, ça énerve. Mais c'est ça, moi, c'est ça la force de l'écriture d'Yvan, et c'est ça la force du collectif. C'est proposer plusieurs entrées. Et peut-être plusieurs sorties aussi, mais ça, je sais pas.
Yvan dirait qu'en fait, alors déjà, merci pour la comparaison avec Elias Suleiman, ça fait plaisir, hein. Mais en fait, sans parler de moi, du coup, j'ai parlé d'Elias Suleiman, mais en fait, c'est intimement lié, en fait, le tragique et le comique. Et en fait, je pense que l'un n'efface pas l'autre. Donc j'espère bien que... Enfin, moi, j'ai pas trop l'impression d'avoir écrit un texte comique. Après, en même temps, j'ai quand même eu un souci d'essayer de faire un cabaret colonisation où on savait pas trop si ça allait rigoler. Ça rigole pas trop non plus, je crois, hein, quand même. Hein, mais c'est peut-être pas si drôle que ça, en fait. Hein. Mais il me semble que, quand même, là, par exemple, le texte, il y avait Allah, au début, on voit, il y a Allah, c'est marrant, il y a un petit jeu, sauf que quand on écoute vraiment le texte, en fait, c'est pas drôle, quoi. Donc, peut-être qu'il y a du tragicomique là-dedans. Enfin, je sais pas.
Moi, je voulais vous remercier aussi d'avoir fait vivre, pendant une heure et demie, d'avoir fait vivre Gaza et d'avoir fait vivre un peuple dont on ne parle pas, alors qu'il est complètement... écrasé, traumatisé, bombardé, tout ce qu'on veut, enfin, qu'on empêche de vivre. Et vous avez parlé de pas mal d'aspects dans votre pièce, tout en les faisant. Pour nous, c'est un spectacle aussi ce soir. Mais pour ceux d'entre vous qui, enfin, je parle des spectateurs surtout, bien sûr, qui voudraient en discuter, on sera à Place Kléber samedi après-midi. Justement, on fait une animation sur la Palestine pour défendre les droits des Palestiniens. Parce que ceci, on n'en parle pas dans nos médias. On ne dit pas que Gaza est bombardé, n'a pas de front, qu'on ne peut pas sortir ni par mer, ni par terre, ni par ciel, ni d'aucune façon de Gaza, qu'il y a 3 heures d'électricité par jour. Qu'il n'y a pas de médicaments contre le Covid et de façon générale, qu'il n'y a pas de nourriture, etc., suffisante, que tout est bloqué par Israël. Bon, ça, c'est Gaza, mais bon, il y a encore d'autres choses. Mais je ne vais pas...
Oui, alors, déjà, merci pour la pièce. Et c'est super cette question sur le tragicomique parce que c'était la remarque que j'avais envie de vous faire. Et ben, on dit souvent que le ridicule ne tue pas. Et ben si, la preuve. Et qu'une fois que ça s'est dit, qu'est-ce qu'on en fait? Et on comprend bien que pour que la situation s'arrange, il va falloir faire un constat très très dur et que c'est qu'à partir de là, d'une prise de conscience généralisée, qu'il y aura peut-être des leviers, des moyens de faire. Et donc j'ai envie de vous dire, moi, et maintenant.
J'ai pas entendu ce que vous avez dit à la fin.
Et maintenant.
Ça appelle une réponse. Bah, j'ai l'impression qu'on a traité de cette chose-là pendant tout le spectacle, en fait. Et maintenant, et après. Et en fait, on donne pas de réponse dans le spectacle et on n'a pas de réponse à donner maintenant. Nous, c'est pas notre histoire, en fait. Nous, on regarde là-bas. On est loin, hein. On est loin, on est des petites gens, et maintenant, vous avez des choses à...
C'est le moment pour introduire Zoé Chambre.
Qui va nous expliquer maintenant ce qui va se passer en Palestine.
Il vient de nous rejoindre à la table, tu vois, paf, tu tombes sur la bonne question.
Maintenant... Peut-être Zoé, tu peux parler de ce que tu fais, de ton métier et de comment tu travailles, comment tu as travaillé la question de l'espace sur ce spectacle.
Alors moi, je suis ce qu'on appelle référente scénographie de notre groupe et je suis plutôt associée aux images et aux visuels, à la peinture, à tout ce qui concerne l'art plastique et aussi effectivement à l'espace et à la vidéo, c'est vrai. Et pour travailler cet espace, on est parti de plusieurs idées et l'idée première, c'était le mot « bande » et l'espace a été d'abord constitué par une bande de table. Derrière lequel il y avait 5 comédiens et de cette table partait tout le spectacle en fait. C'est un peu un laboratoire Je ne sais pas si...
Oh mais non, si, tu le dis très bien.
Voilà. L'idée, c'était de faire un laboratoire autour de cette bande. Voilà. Et l'espace s'est fait vraiment petit à petit, parce qu'on est passé par plein d'étapes. Des murs, beaucoup de murs.
Voilà. Et si l'espace s'est fait petit à petit, est-ce que les quatre parties, il y en a bien quatre, est-ce que les quatre parties étaient là depuis le début ou est-ce qu'elles ont, j'imagine qu'elles ont traversé, elles ont voyagé aussi, peut-être elles ont changé d'ordre, elles sont apparues, disparues.
Bah en fait non, hein, elles n'étaient pas là depuis le début du tout. Au début, il n'y avait pas, enfin je me souviens plus ce qu'il y avait au début. Au tout début, je ne sais plus ce qu'il y avait, quoi. Il y avait plein de choses, mais il y avait, comme je disais, en fait, à un moment, il y a eu la demande du collectif qui est cette partie sur Osloob. Et comme la foutue bande est sous-titrée depuis le début, de loin de la Palestine, moi, je savais, j'ai compris à un moment que je voulais vraiment parler du territoire et qui est un zoom ou un dézoom. Donc... j'avais tous ces textes qui sont plutôt des textes anciens, enfin qui font partie des premiers textes que j'ai écrits, qui sont vraiment ancrés dans la bande de Gaza ou Cisjordanie, qui sont composés de chants et de portraits. Donc ça, c'est vraiment dedans. Quand on a décidé donc de faire une partie sur Osloob, je voyais qu'on s'éloignait du territoire et qu'on passait à l'être territoire. Depuis le début, moi, j'avais vraiment envie qu'il y ait une partie sur la colonisation, mais qui nous concerne, nous aussi, de pas être justement de loin et de parler de loin de cette chose-là. Mais qu'est-ce que ça fait? En quoi, nous, on est aussi responsables? Enfin, nous, les Occidentaux... voilà, donc le cabaret colonisation est apparu comme ça. Et puis, quand on a eu ces trois parties, il se trouve qu'il y avait deux autres textes qui existaient déjà. Donc, un qui est déjà un spectacle, qui s'appelle Le Bulldozer et l'Olivier, avec Ousloub, que vous avez vu, et Naïssam Jalal, une flûtiste qu'on devait jouer au Giboulé l'année dernière, qui existe déjà, qui est une sorte de prologue, qui est la partie presque un peu didactique et qui s'adresse à tout le monde à partir de 10 ans. Et puis, il y a un autre texte qu'on n'a pas, gardé dans ce spectacle-là, qui s'appelle Cartographie imaginaire, qui est un récit. Et tout ça pour dire que quand on avait nos trois parties, on s'arrêtait sur Cabaret Colonisation et on s'est vraiment... Et j'avais un texte bonus qui s'appelait La Dernière, que je n'avais pas écrit. Et que je m'étais dit, ouais, ça va, c'est bon, il y a déjà deux textes, trois parties, ça va aller comme ça. Sauf que quand on a eu les trois parties, on s'est dit, on ne peut pas s'arrêter sur Cabaret Colonisation, il faut un retour à une parole intime et poétique. Donc, il y a un an à peu près, pile poil, on est reparti de notre résidence à Toulouse, et je me suis dit, il faut que j'écrive du coup ce texte, La Dernière.
Je voulais juste savoir comment l'idée de la cuisine vous est venue, quel est le lien avec... avec la pièce, quoi, en général.
Le lien avec la pièce, c'est elle est liée à la compagnie, elle est liée à Yvan et elle est liée à Osloob. On a voilà la question de la cuisine. Yvan est un très bon cuisinier, Osloob, comme il l'a dit aussi. Et la question de cette nourriture, de tout ça, c'est un truc qui nous a toujours beaucoup préoccupés dans les résidences. Et puis tout d'un coup, c'était devenu aussi une action très concrète. Et puis, il y a même eu un moment où, quand on a fait une résidence, on avait fait un rendu de résidence. Je regarde Judith parce qu'elle est très nostalgique de cette période. On avait une toute petite jauge, on était très près des spectateurs et même on leur donnait des trucs à manger et à boire. Bon, vous imaginez bien que c'est plus possible. Mais bon, voilà, à l'époque, tout d'un coup, partager cette cuisine, voilà. Bon, là, le houmous, il le mange tout seul, sans vous, mais il est très bon. Et il est vrai, il est fait en direct, il est vrai, il existe. Voilà. Des fois, on le finit pas, c'est un peu notre problème du moment, mais voilà.
Sur le spectacle d'avant, il y avait une grande scène de cuisine qui est partie, non?
Alors, on accueille JF, qui a fait qui a collaboré aussi à la musique avec Osloub et le son, et était aussi au plateau. On doit jouer avec les comédiens.
Jean-François, il a fait la musique des deux autres spectacles aussi, donc Quelle tête et Mamie Rôti. Et là, il se retrouve sur le plateau.
Voilà, c'est la première fois que je suis au plateau avec tout le monde. Ça fait plaisir. C'est une autre expérience. Et maintenant, c'est Sam au son qui gère tout. Toutes les bandes et tout qu'on a créées avec Elsa et tout ça, qui les diffuse et qui fait un super boulot de spatialisation et de sources sonores et tout ça. Et voilà, et c'est bien d'avoir quelqu'un qui fait ça à part entière de manière très chouette. Je sais pas si ça, je pense que ça se ressent dans le public, ce travail sur la diffusion sonore.
Ah ben, carrément. On est très sensible, et puis c'est ce que tu parlais tout à l'heure d'écriture aussi, sur le fait de vraiment tirer le fil du son et de la musique et de la composition entre les archives, la musique qui est jouée en direct, ce qui est préenregistré. Et c'est très fort. J'espère qu'Osloub va peut-être débarquer aussi pour parler un peu de
quand il va pas venir. Je pense qu'on aura pas Osloub.
Mais tu peux. Comment ?
Je pense qu'on n'aura pas Osloub ce soir.
Mais peut-être tu peux quand même nous raconter comment la rencontre elle s'est faite aussi dans la aussi parce qu'il y a ce moment où vous jouez un morceau que vous avez composé ensemble.
Oui. La rencontre elle s'est faite très simplement hein, parce que moi j'ai une grande affection pour la musique arabe depuis longtemps et là j'étais très content de ce projet parce que du coup d'aller me permettre de creuser ça un peu plus et d'explorer ça avec quelqu'un qui connaissait ça on va dire beaucoup mieux que moi parce que c'est vraiment sa culture et donc moi je suis allé vers lui il allait vers moi et puis voilà hein, on a composé les morceaux qu'il fallait composer et ça s'est passé très naturellement parce que Osloub c'est quelqu'un de très ouvert, voilà, c'est un rappeur, c'est un chanteur, il connaît la musique traditionnelle et tout, mais en fait on lui propose n'importe quoi d'un peu bizarre et expé et tout, qui est plutôt ce vers quoi je tends. Et il n'y a pas de problème, voilà, il n'y a pas de problème. Il reçoit tout, il comprend tout et il s'adapte à tout et il garde sa patte d'Osloub, quoi, que vous avez tous entendu ce soir. De manière magistrale.
Alors, il y a Thomas Lasbouig, qui est acolyte Radio Pratique, qui a vu le spectacle hier et qui a composé dans la journée un son qui dure presque 5 minutes. 4 minutes 30 pour être précis. Et du coup, je propose qu'on l'écoute. C'est quelque chose qu'on a pris l'habitude de faire depuis la saison dernière, de voir le spectacle et de... On n'a pas vraiment trouvé de nom à cette proposition, mais voilà.
Voilà, c'est une sorte de rebond, une manière de pas forcément poser une question, mais en tout cas, notre retour un petit peu de ce qu'on a pu percevoir. Et on a envie de partager avec vous des références aussi qu'on a autour de ces questions-là pour pouvoir déclencher des discussions avec vous, mais aussi avec le public, parce que peut-être que voilà, le son va pouvoir générer un univers des questions particulières. Voilà.
شهری که هرچی که توش میبینی باعث تحریکه تحریک روح تا تو آشغال دونی میفهمی تو هم آدم نیستی یا آشغال بود اینجا همه گرگه میخوا باشی مثل بره بذار چش و گوش تو من بکنم یه زرده لعب و نرد
من أنا لأقول لكم ما أقول لكم؟ وأنا لم أكن حجرا صقلته المياه فأصبح وجها.
The Green Line, Jérusalem 2004. Parfois, faire quelque chose de poétique peut devenir politique. Parfois, faire quelque chose de politique peut devenir poétique. Au cours de l'été 1995, j'ai effectué une promenade avec un pot de peinture bleue qui fuyait dans la ville de Sao Paulo. Et cette promenade a ensuite été lue comme une sorte de geste poétique. En juin 2004, j'ai rejoué cette même performance avec un pot de peinture verte qui fuyait en traçant une ligne suivant la portion de la ligne verte qui traverse la municipalité de Jérusalem. 58 litres de peinture verte ont été utilisés pour tracer une ligne de 24 km. Peu de temps après, une documentation filmée de la marche a été présentée à un certain nombre de personnes que j'ai invitées à réagir spontanément à l'action et aux circonstances dans lesquelles elle a été réalisée. Francis Alice.
Posté le 14 octobre 2020 à 21h32, de Olive 67. Bonsoir. J'ai depuis peu récupéré le Revox B77 et une quinzaine de bandes de mon père. Sur certaines bandes, j'ai un bruit parasite très perturbant. Dans ma première analyse, ce bruit est lié à la mécanique, il ne provient pas de l'enregistrement. Ce bruit ressemble à un bruit de frottement, mais je n'ai pas réussi à le localiser. Il me semble qu'il peut venir de la tension de bande, mais sans certitude. Je cherche donc un support pour m'aider à trouver la solution. Merci d'avance.
À travers les murs, l'architecture de la nouvelle guerre urbaine. Lors de la réoccupation des villes de Palestine au printemps 2002, l'armée israélienne a utilisé une tactique inédite. Au lieu de progresser dans les rues tortueuses des vieux quartiers ou des camps de réfugiés, les soldats passaient de maison en maison, à travers murs et planchers, évitant ainsi de servir de cible aux résistants palestiniens. Cette méthode, conceptualisée sous le nom de « géométrie inversée », par des généraux qui aiment à citer Debord, Deleuze et Guattari ou Derrida, représente un tournant postmoderne dans la guerre des villes. À travers les murs, un livre de Eyal Wezman.
Donc il y a deux éléments qui n'ont pas été cités et sourcés, donc je les restitue. Donc on entend à un moment donné la voix de Mahmoud Darwish, et puis au tout début, c'est la bande originale du film Les Chats Persans, pour ceux qui l'ont vu, et qui est aussi un film qui traverse comme ça toute une histoire, l'histoire de Téhéran à travers la musique et un groupe de rock. Voilà.
Et la dernière,
vous avez un morceau ? Et la dernière, c'est un petit peu, voilà, c'est l'hymne palestinien. Voilà.
Le texte de Eyal Wezman, c'est ça ?
Oui,
on dirait qu'il
à travers
dit,
les murs.
On dirait qu'il est dit par une machine. Quoi.
C'est un robot, c'est une voix robotique. C'est des systèmes en fait, qu'on peut utiliser en voix off, mais c'est des voix avec comment on appelle ça, des reconnaissances maintenant, des systèmes de reconnaissance, voilà, des algorithmes très spécifiques pour pouvoir avoir une voix presque voilà, artificielle assez précise, donc c'est assez déstabilisant. Et effectivement, c'est le dos du livre, voilà, qui donne un petit peu une ouverture sur ce qu'il va contenir.
Et j'aurais aimé savoir en fait, qu'est-ce qui vous a donné l'idée, l'envie d'écrire sur ce sujet en particulier.
Ouais. J'en ai marre de répéter tout le temps la même chose, mais c'est pas de ton fait. Hein. Mais je cherche à inventer une nouvelle réponse.
Peut-être que quelqu'un peut répondre pour toi, parce que
quelqu'un
tes collègues et tes camarades doivent le savoir aussi.
Ouais. Non, mais en 2009, justement, quand j'ai commencé à écrire, j'étais à une manif contre les bombardements plomb durci. Et je criais « Israël assassin, arrêtez les bombes, etc. » Et puis, au bout d'un moment, je sais pas, j'ai dérivé. Et je me suis retrouvé au milieu de gens qui criaient « mort aux juifs ». Et du coup, bah, je suis parti, quoi. Et puis, je me suis dit « tiens, il y a un truc qui frotte, là. Je vais peut-être me pencher sur le sujet, en fait, parce que ça m'a questionné, quoi, en fait. Hein. Enfin, voire même plus que questionné, quoi. » Et ça c'est le déclencheur, tu vois, un petit peu factuel. Et puis en fait, je m'intéresse quand même beaucoup aux études décoloniales, quoi. Enfin, à toutes les histoires de colonisation et de ce qui en reste encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est quand même la situation la plus claire de colonialisme, je crois. Enfin, une des situations vraiment très très claires de colonisation aujourd'hui. Donc je pense que c'est pour ça, en fait, que je me suis intéressé à ce sujet-là. Même si, comme ça, naturellement, il n'y avait pas tellement de raisons que je m'intéresse à ce sujet-là. Enfin, à ce petit coin de d'Asie, du Moyen-Orient, quoi.
Un moment du spectacle où il y a la scène où les deux actrices vont, comment dirais-je, comme effeuiller une espèce d'album avec Abba, 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 Abba. On peut, alors, si on a bien, du moins, si j'ai cru avoir bien entendu, on peut pas dire que là on s'éloigne un peu de la situation d'une référence géographique explicite à la bande pour, je dirais. S'élever à des considérations plus générales, ou est-ce qu'il faut en faire une lecture autre ?
Non, il faut s'élever à des considérations plus générales. Ce texte, il a été écrit par Yvan suite à... Enfin, c'est d'ailleurs un débat entre nous de citer ou pas sa référence. Elle existe. On en passe un tout petit extrait, tout au début, dans les archives. En 2011, c'est un manifeste qui a été écrit par les jeunes de la bande de Gaza au départ, et qui dit ça, qui dit merde à plein de trucs, qui les emmerde. Yvan, il a repris ce principe et il a rajouté les couches qui sont pour moi absolument nécessaires à l'ouverture d'esprit des lecteurs et des spectateurs pour dire on peut s'interroger à un endroit du monde qui est très loin et que tout d'un coup ça fasse résonner des tas de trucs chez nous. La question de l'exil, la question de savoir c'est quoi son territoire, c'est quoi son pays quand on n'habite plus là-bas. C'est la musique, c'est la cuisine, c'est tout ça. Et là, du coup, la question de la lutte, la question de la résistance, la question d'avoir le droit de faire un certain nombre de choses, ça peut s'appliquer aux femmes aussi, pourquoi pas, pas seulement. Mais peut-être Zoé, elle peut parler de son travail, parce qu'elle a fait un très beau travail graphique sur cette proposition. Ils ne voient pas les images des gens, tu peux leur raconter. Ils ne voient pas les images, tu peux leur raconter.
D'abord, c'est une protestation. Alors, là, ça commence par une image de merde. Et enfin, trois images un peu provocantes, puisque c'est une merde, un bras d'honneur. Et un doigt d'honneur. Et suite à ça, c'est tout un tas de merde. En fait. Et l'idée là, c'était de reprendre un peu un graphisme un peu qui m'a été inspiré de dessins africains. Voilà. Voilà, avec un effet gratté comme ça. Comme on peut voir.
Je me disais là quand même, ce qui est beau quand on va au théâtre, c'est que ça, là, c'est quand même un dialogue avec ce pays lointain. Et il y a ce mot, à un moment dont vous parlez, que j'ai pas forcément bien compris, qui se dit smooth ou snood.
Smooth.
Smooth. Et en fait, je me suis dit, zut, alors un mot qui dit joie et résistance, et joie de la résistance, et dont on n'a pas d'équivalent, j'avais vraiment envie de m'accrocher à ce mot. En fait, là, en ce moment, je me suis dit, ah, c'est un peu la rencontre du soir pour moi, de me dire. Donc ça, je trouve ça très, très fort, en fait, de pouvoir aussi, de se dire simplement aussi ce que le théâtre permet, c'est de ramener de l'étranger, de l'étrangeté dans nos réalités, même si là, il y a une sorte de moment où on vit quelque chose qui traverse aussi les frontières. Mais du coup, voilà, c'était quelque chose de nouveau et qui, moi, va me porter. Donc je suis très contente de ça. Donc je vous remercie. Peut-être qu'on peut prendre encore une dernière question avant de conclure. Ah, voilà.
Bonsoir, j'aimerais juste vous faire un retour d'un spectateur à chaud qui est encore sous l'émotion du spectacle. Selon moi, vous avez réussi à faire à la fois un documentaire, un poème et une pièce de théâtre. Et faire les trois en évitant un écueil... l'écueil de la lourdeur... Et vu la lourdeur du sujet, ça relève d'une gageure absolument monumentale. Et j'aimerais juste que vous sachiez que, à mon avis, la difficulté que vous avez relevée ce soir, elle n'est pas évaluable, en fait. Et que, bien sûr, après, c'est chaque réception et sa subjectivité peut se raconter et évaluer les choses comme il veut. Mais pour moi, votre travail aussi, c'est un travail qui répond... sur des longues voûtes de travail. Et en ça, la notion de différence entre culture et divertissement, elle est immense. Vous avez un travail qui peut donner un rendez-vous en fait, à l'instant, tout en étant dans des très longues voûtes de métabolisation. Et j'aimerais juste... oui, j'ai une question quand même à Yvan. Est-ce que, Yvan, est-ce que tu te sens allégé maintenant que le spectacle existe, ou est-ce que tu te sens encore en train de porter quelque chose par rapport à ce travail ?
Merci Vincent. ce soir, je me sens un petit peu allégé. Hier soir, je ne me sentais pas allégé. J'ai passé une très mauvaise journée. C'est comme ça, c'est pas grave. Hein. Enfin, c'est pas grave. Je sais pas. Ça va. Je me sens un peu allégé, mais pas totalement. Je me suis senti allégé à d'autres moments, en fait, par rapport à ce texte-là. Il y a plein de moments où je ne me suis pas du tout senti léger, en fait. Parce que le chemin dont on parle, c'est aussi quand même des matins où tu regardes une vidéo et tu pleures. Enfin, tu vois, des choses comme ça hein, aussi. Hein. Parce que c'est dur, en fait. Mais depuis un certain temps, ça s'est calmé, cette chose-là. Peut-être parce que je suis moins dans une découverte, quoi. Enfin, je sais pas. C'est comme si j'avais fait mes réserves. Du coup, je vais un peu plus loin que ta question. Tu me la reposeras. C'est comme si j'avais fait tout mon stock de recherche quand même à un moment, et puis qu'après arrivait le moment d'écrire, et puis en fait j'avais déjà fait mes recherches et j'avais un peu maturé tout ça, et puis quand il s'agit d'écrire, je sais d'où j'écris, et du coup ça avance à peu près, quoi. Sauf, moi je vais retomber sur mes pattes, sauf le dernier texte qui est très récent, qui est très compliqué pour moi d'écrire, qui est très compliqué pour moi d'écrire, parce que pour moi il n'est pas totalement fini. Donc c'est cette charge-là, moi, qui reste un petit peu, qui est compliquée parce que c'est du théâtre et que je sais pas écrire du théâtre et que c'est pas mon langage, mais c'est du théâtre et je sais pas, c'est du scénario, enfin un peu, et je suis très mal à l'aise avec ce genre de choses. Alors j'essaye de travailler, hein, essayer de. Mais je sens bien, après, je pense que ça ne me dit pas rien à personne, mais je ne suis pas sûr que ça dise ce que j'ai envie de dire à tout le monde. ce qui n'est pas très grave, ce qui n'est pas la première fois que ça m'arrive, hein, en fait, mais que m'échappe ce que je veux dire, enfin, non, que m'échappe ce que je dis. Là, m'échappe un peu ce que je veux dire, c'est un peu plus embêtant. Donc j'ai cette charge là qui me reste un petit peu, mais on a un peu de temps parce qu'après jouer, après avoir fini notre série ici, on a quelques mois avant de reprendre le spectacle, donc je vais pouvoir m'y réatteler, et puis on va s'y réatteler, on a une petite reprise avant les prochaines dates quoi, donc on verra. On verra comme dit Ousloub à la fin de.
Oui, bonsoir. Moi, je connais un peu la Palestine. J'y suis allée plusieurs fois et je milite pour la justice en Palestine et le droit des Palestiniens. Et j'avoue que j'ai été emballée. J'ai vu la pièce hier soir, j'ai été emballée parce que c'est un objet, c'est vrai que c'est un objet inclassable où il y a à la fois du documentaire, du théâtre, du concert. Dommage d'ailleurs que votre ami palestinien ne soit pas là ce soir. Et vraiment, bravo. J'ai trouvé que c'était une prouesse. C'était vraiment une prouesse, parce que c'est vrai que c'est difficile d'aborder ce sujet sans devenir dogmatique, sans devenir caricatural, sans devenir... c'était vraiment très, très bien. Et en fait, je voulais vous inviter tous de samedi après-midi. Parce que nous avons une tonnelle rouge, Place Kléber, à Strasbourg, tout l'après-midi, où nous informons sur ce qui se passe, sur ce qui se passe en Palestine actuellement. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup.
Merci. Merci. Et dommage que ça soit que deux jours, trois jours. Sinon, vous aurez encore amené du monde.
Merci. Merci. Mais on ne sera pas là, nous, samedi. On repart samedi.
On va.
Ouais, mais on sera de tout cœur avec vous. Hein. Oui. Mais on sera de tout cœur aussi de retour vers chez nous.
C'est où chez vous?
Ah bon, on vient tous d'endroits différents. Il y a des gens à Montpellier, il y a des gens à Marseille, il y a des gens à Paris, il y a des gens en Bretagne. Voilà.
Eh bien, merci. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir accepter de faire cette émission à la sortie du spectacle. Merci au public. On peut quand même continuer la conversation de manière plus informelle au bar en étant bien assis à table. On vous servira des bières et autre chose. Le prochain plateau de Radio Pratique, c'est le 5 novembre pour encore une création, le Gonze de l'Opifil de David Sechaud et la compagnie Placement Libre qui joue au TJP Grande Scène du 4 au 6 novembre. À bon entendeur, salut.